Voilà, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps encore qu'il nous accorde d'étudier sa parole. Nous avons pris la décision de revenir au système d'autrefois. Nous n'allons plus couper, parce que l'histoire de couper avant la prédication, c'était dû à des circonstances liées au Covid, parce que en ce moment-là, c'était interdit qu'on se réunisse ensemble. Du coup, chacun avait un moment d'adoration avec un groupe chez lui. Et nous attendions le moment de la prédication pour nous connecter. Donc, du coup, nous avions un peu continué ainsi. Mais là, maintenant que nous pensons que le Covid est frappé à mort, donc nous pouvons recommencer à faire en continuité. Donc, nous n'allons plus couper donc, entre la louange et la prédication. Voilà. Donc, c'est le premier jour que nous faisons cela. Et nous sommes arrivés tristement à la fin du livre d'Ecclésiaste. À chaque fois que nous finissons un livre, voilà, ça nous fait de la tristesse. C'est comme si nous nous séparions d'un ami. Le livre d'Ecclésiaste était devenu comme un ami, rempli de trésors, rempli de ressources extraordinaires. Nous avions été impressionnés merveilleusement par le chapitre 11. Et bon, tous les autres chapitres étaient bons, hein, mais le chapitre 11 était d'un goût exquis. Et là, nous prenons le chapitre 12, qui est la conclusion du livre. Rappelons-nous qu'au début, nous avions dit que le but du livre, c'était de montrer que tout était vanité, c'est-à-dire que tout n'a pas la valeur qu'on peut penser. Tout a une valeur faible. La seule chose qui vaille la peine, c'est la foi en Dieu, puisque c'est Dieu qui a la valeur infinie. Et nous avions dit aussi que l'on ne pouvait maîtriser rien. Donc tout est vanité, mais il y a aussi le fait que personne ne maîtrise rien. Personne. Voilà. Seul Dieu maîtrise tout. Nous, les humains, les grands, les petits, nous ne maîtrisons rien. Nous pensons maîtriser une science, nous nous trompons. Les gens qui travaillent dans la physique le savent très bien. Les théories ne font que changer. Voilà. Et en médecine, n'en parlons pas. Donc, nous ne maîtrisons rien, nous ne maîtrisons pas la vie, nous ne maîtrisons pas la mort, nous ne maîtrisons pas notre avenir. Nous ne maîtrisons pas nos enfants. Nous ne maîtrisons pas non plus nos esclaves. Quelqu'un peut être ton esclave, mais tu ne le maîtrises pas, tu ne gères pas son cœur. Tu ne sais pas ce que fait ton cuisinier avant de te présenter le plat. Tu ne sais pas. Tu as beau être roi, mais pendant que tu es en réunion, ton cuisinier prépare. Il peut mettre du poison. Il peut mettre de la saleté exprès. Tu ne maîtrises pas. Donc, quel que soit ton titre, ta position, c'est ça l'Ecclésiaste. Personne ne maîtrise. Il n'y a que Dieu. Conclusion, vaut mieux se confier en Dieu, puisque nous ne maîtrisons rien. Certaines personnes, comme dit la parole, ne montrent leur vrai objectif que 20 ans après. 15 ans après, donc nous ne maîtrisons pas. Et les gens sont surpris. Jules César, empereur romain, a été assassiné dans un complot dans lequel a participé son propre fils. Les gens qui ont fait le littéraire connaissent cette phrase. Tu quoque fili. Donc même toi, mon fils, voilà, c'est... un grand... Qui ne connaît pas Jules César aujourd'hui, mais il est mort. Bêtement, voilà, d'un assassinat, ourdi entre autres par son fils. C'est pour dire que nous ne maîtrisons rien. Personne ne maîtrise. Seul Dieu maîtrise. C'est ça la leçon l'Ecclésiaste, nous voulons toujours répéter cela. Et nous avons donné, il y a trop de pensées profondes que nous ne pouvons pas les répéter encore. Il faut relire. C'est un livre très riche. Et là, nous clôturons avec la conclusion, c'est que ben, tout est vanité, nous ne maîtrisons rien. Et à part ça, ben, pour tous ceux qui résistent à cette logique-là, comme quoi tout est vanité, nous ne maîtrisons rien, et qui pensent maîtriser, et qui vont vivre leur vie comme si ça dépendait d'eux, eh bien, il y aura un jugement. Dieu jugera tous les humains. D'ailleurs, nous commençons avec ce verset-là, Ecclésiaste 12, 1.
Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement.
Voilà, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Pourquoi on dit jeune homme ? Parce que le jeune homme, donc quand on est jeune, c'est là où on a comme une sensation de toute puissance. C'est là où on a comme une sensation du contraire de la conclusion du livre, du thème de ce livre. Ce livre dit que tout est vanité et que nous ne maîtrisons rien. Mais la jeunesse, c'est un peu ce contraire-là. La jeunesse a tellement de vie. Il n'y a rien qui ne s'abîme quand on est jeune. Tout marche. Le cœur fonctionne bien. Le sang circule bien. Je me souviens, à chaque fois que tu vas faire les examens chez le médecin, c'est toujours tout est normal. quand tu es jeune, quand tu sors, c'est toujours tout est normal. Mais voilà. Et la jeunesse. Donc, ça donne une sensation de toute puissance et de maîtrise. C'est ce qu'on appelle aussi l'orgueil de la vie. La jeunesse est pleine de vie. Et donc, ça donne une sensation de maîtrise, de force et de capacité de faire quelque chose. Il se sent fort. Donc, là où nous disons tout est vanité, lui se dit, non, ma force sert à quelque chose, ma force sert à frapper, ce n'est pas vanité. Mon intelligence sert à calculer, je suis le premier de classe, ce n'est pas de la vanité. Vous voyez, donc c'est pourquoi il est dit aux jeunes, mais à tous ceux qui ont un comportement de jeune dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font aussi, eh bien, attention, c'est très bien d'avoir cette force de la jeunesse. L'intelligence vive de la jeunesse, c'est très bien d'en jouir. Mais attention, il faut se souvenir que c'est Dieu qui a fait tout ça. Et s'incliner devant lui et ne pas utiliser ça pour enfreindre la loi de Dieu. Car il y a un jugement. Il y a un jugement par rapport à cela. Donc la vie que le jeune a, ça ne lui appartient pas, ça appartient à Dieu. Donc, il n'a pas donné cette vie pour que ça contredise ses principes à lui. Il a donné cette vie pour glorifier son nom. Donc, tous les jeunes, se sentant forts, se sentant maîtrisés et se comportant comme s'ils étaient Dieu lui-même, eh bien, ils sont jugés. Il y a un jugement. Donc, on ne parle pas que... Quand je dis jeune, je parle de tous ceux qui ont cette attitude-là. À un moment donné, ils sont millionnaires, même s'ils ont 65 ans, ils sont millionnaires, ils se croient tout permis, ils peuvent tout acheter. Voilà, ils sont comme tout puissants. Ben, il est dit, c'est très bien quand tu es millionnaire. Tu peux monter dans un avion en première classe. C'est bien parce que, comme on l'a vu dans les anciens, dans le précédent chapitre, c'est le don de Dieu. Que Dieu te donne la force, c'est son don. Il faut en jouir. Qu'il te donne de l'argent, c'est un don qui vient de lui. Nous avions vu dans les chapitres précédents que le présent, c'était le cadeau de Dieu. Si le présent te trouve en bonne santé, il faut t'en réjouir. Il n'y a pas de mal à cela. Mais attention, pas t'en réjouir au point de contrevenir aux lois de celui qui te donne ça. Voilà, l'avertissement. Réjouis-toi, mais n'entre pas dans les excès de table. N'entre pas dans le mensonge. n'entre pas dans l'esclavage de la nourriture, de la boisson, puisque tu n'as pas été créé pour être esclave d'un autre Dieu que du Dieu vivant. Et donc, il y aura un jugement pour tous les jeunes. Quand je dis jeunes, oui, il y a la jeunesse de l'âge qui montre les choses, mais il y a aussi la jeunesse voilà, que quelqu'un a, puisqu'il a des titres, il a des richesses, il a la, voilà, c'est ça, il a la beauté. Hein, tout ça, on te dit, c'est le cadeau de Dieu, réjouis-toi de ça, mais sache que pour tout cela, eh ben, Dieu t'appellera en jugement. Donc, pour tout ce que, pour toutes les manières dont que tu utilises ces choses-là qui sont contraires à la parole de Dieu, eh bien, tu seras jugé. Que chacun prenne l'avertissement du Seigneur au sérieux. Nous continuons.
Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité.
Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. On te dit, il dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton cœur. Donc, n'entre pas dans les polémiques, dans les soucis du monde. Réjouis-toi en ton Dieu. Rejette le mal. Parce que loin de Dieu, c'est la mort. Parce qu'en réalité, ce que tu penses être une force, ce que tu penses être une maîtrise, ton âge, ta force, n'est que vanité. C'est rien du tout. Voilà l'information qui revient dans tout le livre, tout est vanité, même la jeunesse est vanité. Maintenant, il est important de le comprendre avant, c'est ce que nous allons lire dans la suite, c'est pendant que tu es jeune que tu dois comprendre que tout est vanité. C'est pourquoi il est très important que nous travaillions avec les jeunes. C'est-à-dire que dans les missions que Dieu nous confie, dans le travail spirituel, nous devons nous faire accompagner des jeunes. C'est très important qu'ils voient la fin de tout, qu'ils voient la suite. C'est quand on fait des visites, des prières dans des maisons, on fait des entretiens avec les gens, que les jeunes soient là pour entendre ce qui peut arriver à un humain. Parce que quand on vit pendant 20 ans, 15 ans, dans une atmosphère de toute puissance, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. C'est très important qu'ils touchent de la vie pour voir là où leur propre vie finira. C'est très important. C'est que ça fait grandir les jeunes. Je connais cet exemple qui nous a été cité en France. Il y a un monsieur qui maltraitait son papa qui était déjà devenu vieux, qui vivait à la maison. Au point que, voilà, il lui avait donné une vieille couverture, alors le monsieur avait froid. Et un jour, le papa vient voir son père, qui est devenu vieux là. Il voit que la couverture a été coupée en deux. Il dit, mais qui a coupé en deux? Son enfant dit, c'est moi qui ai coupé pour le jour où toi aussi tu seras vieux. Voilà. Donc, c'est un enfant comme ça, a vu. En fait, cette situation lui a permis de voir que son papa aussi finira comme ça. Et lui-même aussi finira comme ça. Il se dit, non, c'est méchant parce que moi aussi je finirai comme ça, je ne souhaiterais pas qu'on me le fasse. C'est très important que l'enfant vive, voit des situations qui l'enseignent sur son propre avenir et l'avenir de l'humanité. Ça l'aide très tôt à comprendre que même la jeunesse n'est que vanité. Même la jeunesse. C'est très important et c'est ce que notre ami nous répète. Car la jeunesse et l'aurore, le matin, donc quand ça brille, tout ça, ça va passer. C'est vanité. Et il nous est dit, donc au verset 3, on peut continuer, verset 3,
mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir.
Voilà. On te dit, fais les choses maintenant. pendant que tu es jeune, sers Dieu avec toutes les ressources de la jeunesse. Que tu y prennes plaisir, que tu sois en forme en faisant les choses. Chante en ce moment-là. Apprends la guitare. Apprends le piano pendant que tu es jeune. Fais les choses en ce moment-là parce que ça va aller un peu plus vite. Ça va te réjouir de savoir jouer un peu plus vite. Mais si tu dois attendre d'apprendre à 75 ans le piano, la guitare, c'est un peu plus dur. Tu n'y prendras pas forcément plaisir. Fais les choses pendant que tu es jeune. C'est le temps où, sans calculer, tu te lèves le matin. Nous, quand on avait 10 ans, ben, on sortait de la maison, on revenait le soir. Ben, tu faisais 4 matchs pendant les vacances. Tu faisais un match dans un quartier, ça finissait. Vous allez dans un autre quartier, un autre match encore. Vous pouvez faire 4 matchs et tu reviens, c'est comme si tu n'as rien fait. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, sers Dieu avec cette force-là. Avant que tu veuilles servir Dieu, mais tu t'en sens pas la force. Ça devient comme une sorte de fardeau. Faut marcher, faut se réveiller tôt, il faut faire ceci, et ton corps suit difficilement. Donc, le plaisir n'est pas total. On te dit, sers Dieu au moment où tu es en forme. Profites-en pour grandir, apprendre des choses pendant que la mémoire est fraîche. Profites-en pour emmagasiner les versets, la parole de Dieu. Profites-en pendant que tu es jeune, avant que tu ne prennes pas plaisir. Mais je veux dire aussi, avant que tu te rendes compte que la jeunesse n'était que vanité. C'est-à-dire, quand maintenant tu as un certain âge, tu te rends compte que c'est passé trop vite. Mais pendant que tu vivais la jeunesse, tu te croyais jeune éternellement. Mais quand tu atteins un certain âge, tu te rends compte que ta jeunesse finalement est passée très vite, mais tu ne peux pas faire marche arrière pour te rattraper. Donc avant cette déception-là, pour éviter que tu vives cette douleur-là, de te dire, je ne peux pas faire marche arrière pour faire les choses que je n'ai pas faites au moment où j'étais en forme. Fais les choses dès maintenant pour que tu n'aies pas à regretter ainsi, pour que tu n'aies pas à en souffrir, parce que c'est une souffrance de se dire, mais maintenant je veux, mais j'ai du mal. Alors que je pouvais et je n'avais pas fait. Avant de vivre cette déception-là, c'est ce qui est écrit là. Donc, souviens-toi, pendant les jours de ta jeunesse, avant les jours mauvais, c'est écrit, avant que les jours mauvais arrivent, avant que les jours où le corps ne suit pas tout, c'est des jours mauvais, il faut être honnête par rapport à ça. C'est des jours mauvais. Alors qu'avant, tu ne te fatiguais pas, tu allais, moi, quand j'étais dans la région parisienne, j'allais de réunion de prière à réunion de prière. Veiller sur veiller de prière, et tu ne ressentais pas la fatigue. Et parfois, le lendemain, tu allais au travail. Donc, pendant que tu as ces capacités-là, fais les choses, tu les feras allègrement, ça sera bien. N'attends pas la surprise de la vieillesse et le regret, le remords de se dire, ah tiens, j'aurais dû, mais je n'ai pas fait. Ça fait très mal. Donc, pendant que tu es encore jeune, pendant que tu as encore les moyens, là, je parle à tout le monde, pendant qu'on peut faire des choses allègrement, facilement, faisons-le, même quand on a 70 ans, on a 80 ans, il y a des choses qu'on peut faire. Pendant qu'on peut les faire, faisons-les, parce que viendra un temps où tu ne pourras pas faire ce que tu peux faire facilement aujourd'hui. Certains, par exemple, certains peuvent avoir de très bons livres spirituels, mais tu as 85 ans, au lieu de donner déjà à des gens, tu joues toujours au conservateur, au musée. Dieu ne nous appelle pas à être un musée. Ces livres-là, c'est des choses, ces cassettes, je ne sais pas quoi, c'est des supports qui vont aider les chrétiens qui viennent. Donc, n'attends pas que Maintenant, tu meurs et tes héritiers qui ne se sont pas convertis, ou certains qui ne sont pas à 100% chrétiens, prennent ces choses, mettent ça au feu, ou disent, ben, nous ne sommes pas d'accord avec votre Jésus, nous vous les donnons même pas, ils ne vont même pas donner aux chrétiens. Vous voyez, beaucoup ont trop attendu avant de faire certaines choses et pour arriver à un temps où ils ne pouvaient plus rien faire. Chacun de nous peut faire quelque chose à son âge. Fais la chose. N'attends pas d'atteindre un niveau où tu es au lit. Et si même tu donnes un ordre, les gens vont dire il est irresponsable, on ne prend pas cet ordre. Quand tu es encore là, conscience nette, fais les legs qu'il faut. Tu ne sais pas tout ce qui va arriver avant. Après, l'un des grands problèmes qu'on retrouve, surtout dans les pays où il n'y a pas le droit qui agit comme il faut, c'est l'impréparation des parents qui meurent en laissant des choses qui divisent après les enfants. Les gens s'entre-déchirent après la mort des parents. C'est sale à voir. Parce que quand tu vois des gens qui ont grandi ensemble, qui ont joué à la dînette ensemble, qui ont souri, après s'entre-déchirer à cause de l'argent, à cause de l'héritage, tu dis, mais ça, c'est la faute des parents. Il fallait régler les choses avant. Et il faut régler les choses avant, surtout dans ce genre de pays-là. Il faut régler les choses avant parce que quand tu as encore la force, règle les choses, parce qu'il viendra un moment où tu veux signer, on te dit même ta signature n'est plus valable. Tu as été influencé. Donc c'est ça le problème. Donc quand nous avons encore la capacité, quand nous avons encore une certaine jeunesse, faisons les choses. Parce que viennent les jours mauvais où nous ne pourrons plus rien faire. Même Jésus, vous voyez comment la Bible est cohérente. Hein? Jésus dit dans Jean 9, pendant qu'il fait jour, je vais travailler. La nuit approche où personne ne peut travailler. Lisez dans Jean 9, vous verrez cette phrase. Il dit, pendant qu'il fait jour, je dois travailler. Donc, pendant que j'ai encore le mandat de mon Père de faire des miracles, de prêcher, de sauver, que je le fasse, vient la nuit où je ne pourrai plus le faire. La nuit, ça, c'était au moment où Dieu dit, c'est bon, tu ne manifestes plus la gloire. Là, tu dois te faire arrêter et qu'on fasse de toi ce qu'il veut. Là, il ne pouvait plus. Donc, la nuit, pendant qu'il était dans le jour, le temps de Dieu, ben, il a dit, laissez-moi aller travailler. Parce que les gens disaient, mais tu vas là où tu seras en danger. Il leur a dit, pendant qu'il fait jour, je dois travailler. Voilà. Pendant que j'ai le mandat, c'est dans mon temps de prêcher, je dois aller même là où il y a le danger. Parce que la nuit viendra un jour, viendra un temps où tu ne pourras plus travailler. Parce que c'est une autre phase du plan de Dieu. Donc c'est un conseil que nous recevons à partir des jeunes, mais c'est un conseil pour nous tous. Pendant qu'on peut faire les choses, on doit les faire. Et nous continuons après tout le reste, c'est lié à ce qu'on vient de lire. Donc avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends pas de plaisir. Maintenant, il y a une description qui vient qu'on va expliquer après.
Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité.
Voilà la conclusion. Et là, il dit, pendant que tu es jeune, comme nous l'avions dit précédemment, fais les choses. Avant que les jours mauvais arrivent, les jours plus difficiles. Ou, maintenant, il fait une image, une comparaison de la vie humaine, des organes humains, avec la vie de la maison. Voilà, la vie d'une maison. Donc, ce que nous lisons là, nos anciens, en lisant ça, ils ont reconnu les choses que je vais vous décrire à peu près. Donc, quand ils disent, avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent. Donc, les anciens ont considéré que les gardiens de la maison, c'était comme les bras. Donc, les bras sont les gardiens de la maison. Vous savez que quand on dit que quelqu'un a Parkinson, c'est les mains qui tremblent. En général, c'est les mains qui tremblent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui tremble dans le corps? Fréquemment, c'est les mains. Donc, quand quelqu'un qu'on dit qu'il a la tremblote, il tremble, c'est les mains, toujours. Avant que les gardiens, donc les bras, commencent à trembler. Donc, considérez les bras comme étant les gardiens. Avant que les hommes forts se courbent. Donc, ça, c'est les jambes, bien sûr. Les hommes forts du corps, ce sont les jambes. Donc, c'est eux, c'est elles qui tiennent le corps. Donc, avant que les jambes commencent à se courber, avant que les gardiens commencent à trembler, fais les choses. Sers le Seigneur. Ou celle qui moule s'arrête parce qu'elles sont diminuées. Ils ont considéré que c'était le bruit de la maison. Vous savez, quand on est jeune, on est dans une maison de jeunes, il y a de l'activité, il y a du mouvement. Et là, ben, là l'activité baisse dans ce genre de temps, dans ce genre de situation. Avant que ceux qui regardent par les fenêtres soient obscurcis, ça c'est clair, c'est les yeux. Donc avant que les yeux, voilà, commencent à voir flou, fais les choses bien, lis, voilà, utilise tes yeux comme il faut. Et en même temps, il parle des organes du corps, mais en utilisant les humains et ce qui se passe dans la maison, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, donc au moment où les oreilles ne ressortent plus le bruit comme il faut, voilà, les deux battants de la porte, quand s'abaisse le bruit de la meule ou l'on se lève au chant de l'oiseau, nous connaissons comment, quand on a un certain âge, on a l'habitude de se lever très tôt, voilà, au chant de l'oiseau, on est réveillé. Donc, avant que n'arrive ce temps-là, et ce sont des comparaisons que nos anciens ont trouvées. Ce n'est pas à dire qu'il faut croire à tout cela, mais c'est des belles comparaisons où on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du chant. Et bien sûr, les cordes vocales sont fatiguées. Les cordes vocales sont fatiguées. Où l'on redoute ce qui est élevé. Quand on a un certain âge, tout ce qui est en hauteur, ça nous fait peur parce qu'on a des problèmes d'équilibre. Ça donne des problèmes d'équilibre. Où on le redoute, ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin. Voilà. Souvent, les personnes âgées ont des craintes parfois injustifiées. Quoi, voilà. Et c'est... Beaucoup tombent souvent dans la paranoïa. Voilà. Donc c'est, voilà, on commence à craindre les choses. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que nous maîtrisons moins les choses. Parce que nous nous disons que s'il y a un événement, je vais faire comment? Je ne pourrais pas courir. Je ne pourrais pas faire ceci. Je ne pourrais pas me défendre comme il faut. Du coup, on commence à redouter les choses. C'est ça. C'est une crainte comme ça, une peur des choses, parce que soi-même, on se sent faible. C'est ça la réalité. Finalement, la jeunesse est passée trop vite et ne peut pas venir au secours de la vieillesse. Où l'amandier fleurit, vous savez, quand l'amandier fleurit, ça a quelle couleur ? La couleur blanche. Voilà, donc on suppose que là, c'est quand les cheveux deviennent blancs. Voilà, donc où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, ça c'est l'état général du corps, que ça devient lourd, les gestes deviennent lourds. Voilà, c'est cela, où la capre n'a plus de fée, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Donc finalement, les sens, on n'a plus le goût, on n'a plus les sens ne répondent pas comme il faut. Tu peux manger des choses, mais tu ne sens pas le goût des choses comme il faut. Et le pleureur parcourt les rues, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Donc, nous sommes en direction vers notre demeure éternelle. Voilà. Et ça, c'est un enchaînement de ce qui arrive au corps. Donc, Salomon a mis les choses d'une manière poétique extraordinaire. Je pense que lui-même aurait pu mieux bien expliquer tout ce qu'il a écrit là. Mais nos anciens, par l'Esprit de Dieu, ont pu faire beaucoup de liens avec l'état du corps humain en vieillissant. Et il y a un terme qu'on retrouve même dans le monde. C'est le terme qui suit. Avant que le cordon d'argent se détache. Même dans le monde, on en parle. Les gens, tout le monde admet qu'il y a comme un cordon, un fil qui nous relie à la vie. Et le jour où ce fil-là est coupé, la vie s'en va, notre âme s'envole. Donc c'est comme un cordon qui relie l'âme, le corps et l'esprit, surtout l'âme et le corps. Le jour où le cordon est coupé, c'est la mort. L'âme et le corps ne sont plus liés. Et dans beaucoup de milieux, il y a des gens qui ont vu ça aussi en vision, ce cordon-là. Voilà. Et maintenant, nous disons les deux versions. Il y a la version âme et corps, mais il y a aussi la version toujours pratique. La version pratique, c'est avant que le corps d'argent se détache, que le vase d'or se brise, c'est considéré comme étant le cordon d'argent, c'est considéré comme étant le système nerveux. Donc tout ce qui relie, qui permet qu'on sente, qu'on parle, qu'on réagisse, c'est le système nerveux. C'est pourquoi on utilise le cordon. Les nerfs sont comme un cordon. Et le vase d'or, c'est comme le cerveau. C'est comme notre organe, l'un des organes les plus précieux, le vase ainsi que le cerveau ainsi que le cœur, avant que le vase d'or se brise, que le sceau se rompe sur la source. Les bien-aimés ont supposé que c'était le cœur. Au moment où le cœur, ne reçoit plus le sang, voilà, se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, la roue. Ils ont supposé que c'était le système circulatoire, ce qui fait circuler le sang dans tout le corps. Voilà. Mais, en résumé, ces quatre choses que je viens de lire résument tout simplement la mort. C'est-à-dire que l'âme se sépare de la vie. Donc, avant que tout cela n'arrive, sers ton Dieu pleinement. De sorte que quand tu arrives à cet âge-là, tu ne regrettes pas. Tu ne regrettes pas. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Le frère Paul a dit dans 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Maintenant, je suis à l'atterrissage. Voilà. Il faut veiller jusqu'au bout. Hein. Même l'atterrissage peut être dangereux. Mais déjà, tu as fait 9000 km ou 8000 km. Maintenant, tu as l'atterrissage. Il reste 20 minutes pour l'atterrissage. Et donc, tu regardes le 9000 km, tu dis, ben, vraiment, merci mon Dieu. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, rends-moi vigilant pour que je finisse comme il faut. Parce que certains font des gaffes, même au seuil de la mort. Il faut être vigilant jusqu'au bout. Et là, le conseil qui nous est donné, avant que tout cela n'arrive, les oreilles ont du mal à entendre. Quand les oreilles ont du mal à entendre, faire la musique devient aussi difficile. Donc tout ça, mais avant que tout cela n'arrive, sers pleinement ton Dieu. Sers pleinement ton Dieu. Voilà le conseil qui est donné, car tout est vanité, parce que c'est en ce moment-là que tu vas te rendre compte que ta jeunesse n'était que folie. Elle est passée trop vite. Elle ne peut même pas venir à ton secours. Avant que la poussière retourne à la terre, nous connaissons, nous sommes poussière, nous allons retourner à la terre comme elle y était, et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc ça nous permet de faire une parenthèse sur le corps, l'âme et l'esprit. Donc l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit, ce que nous retrouvons dans 1 Thessaloniciens clairement 5:23. Donc on nous parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Et dans d'autres passages, par contre, on nous parle de l'âme et du corps. Voilà. Et pour les retrouver trois ensembles comme ça, ce n'est pas fréquent. 1 Thessaloniciens 5:23 nous montre, mais il y a de temps en temps, c'est l'esprit et l'âme, l'esprit et le corps. Et il y a un paramètre qu'on fait entrer encore, le cœur, mais aujourd'hui on ne va pas parler du cœur, on se limite à parler de l'esprit, du corps et de l'âme. Le corps, c'est le physique, c'est le véhicule physique. Voilà, c'est ça le corps. L'âme, c'est l'être lui-même, mais immatériel, non physique. C'est-à-dire, ce qui fait que c'est lui, c'est l'âme. Donc, ce qui fait la différence entre les humains, entre les individus, c'est leur âme. C'est le siège de leur volonté, de leur caractère, de leurs émotions. Voilà, c'est l'âme. Et cette âme-là a été corrompue par le péché d'Adam. Et cette âme influence le corps et l'esprit. L'esprit, maintenant, c'est quoi ? L'esprit, c'est le point de contact avec Dieu. C'est l'enveloppe divine que tous les humains ont. Maintenant, quand l'homme meurt, son corps est enterré, son âme, si c'est un chrétien, va au paradis. Jésus a dit au voleur à la croix, comment nous le savons ? Parce que Jésus a dit au voleur à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et l'esprit, qui est une enveloppe divine, retourne à Dieu, c'est ce que ce verset dit, l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'Esprit est une enveloppe pure, mais qui peut se salir par l'âme. Mais le jour de la mort, il y a l'âme qui se détache de tout ça. Du coup, l'Esprit ne reste qu'une enveloppe qui est liée à la personne à qui ça a été donné, mais elle retrouve sa nature de pure qui... Elle retourne à Dieu, l'âme va en enfer pour les païens et au paradis pour les enfants de Dieu, et le corps reste au sol jusqu'au jour de la résurrection. Voilà comment ça fonctionne, et ce passage nous permet de le constater. Comme Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il avait dit ? Père, je te remets mon esprit. Voilà, donc c'est l'esprit. L'esprit est rendu à Dieu. Voilà. C'est l'âme, eh ben, ça dépend de ce qu'on a été sur terre. Si on a été dans le camp des justes, ça part au paradis, comme Jésus a dit au voleur à la croix, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et sinon, ça part dans le séjour de mort, comme nous avons l'exemple de Luc 16, où Jésus parle de l'homme riche et de Lazare. À l'époque où Jésus donne cette histoire, Jésus n'est pas encore mort à la croix. Du coup, même les âmes des justes allaient au séjour des morts, mais pas du même côté que les âmes des injustes. L'histoire de Luc 16 nous le montre, que les injustes étaient dans un endroit séparé par un abîme, par un grand fossé, de l'endroit où était le sein d'Abraham, où était Lazare. Donc, il ne pouvait pas passer d'un endroit, de cet endroit à l'autre. Voilà ce qu'était la situation avant la mort à la croix. Quand Jésus meurt à la croix, il est dit dans 1 Pierre qu'il est descendu, ou dans deux pierres, dans les épîtres de Pierre, il est dit qu'il est descendu annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient en bas pour leur dire à ceux qui avaient le cœur dirigé en faveur de Dieu, pour leur dire, je suis mort à la croix, maintenant c'est réglé. Le sang a coulé, il y a une justification maintenant pour que vous alliez au paradis. Et aux autres, il a proclamé leur condamnation, c'est fini pour vous puisque vous n'avez pas accepté la parole de mon Père, mon évangile qui a été, répandu d'une certaine manière avant ma venue, la vérité de Dieu, vous ne l'avez pas accepté. Votre condamnation est confirmée par ma mort à la croix également. Donc, votre jugement est prononcé. Voilà, c'est ce qui est écrit dans Matthieu. Maintenant, qu'est-ce qui est dit dans Matthieu? Que le jour où il est mort, il y a les saints d'autrefois qui sont revenus à la vie. Et quand Jésus ressuscite, ils sortent avec lui en même temps et les gens dans la ville, ils les ont vus. Comment ils les ont reconnus? Je ne sais pas, mais ils les ont vus. Donc, nous comprenons par là que quand Jésus descend, il leur proclame leur délivrance acquise à la croix. Et maintenant, leurs âmes peuvent changer de lieu. Même le séjour de mort a été transporté maintenant. Le séjour de mort du côté des justes a été transporté maintenant au paradis. C'est ce qui a permis à Jésus de dire au voleur qui s'est converti, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Voilà un résumé de ce que le corps, l'âme et l'esprit et leur sort après la mort. Donc ce passage nous dit, le corps va retourner à la poussière, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit, c'est le souffle de Dieu. C'est pas le souffle, ça a donné la vie, mais l'esprit, c'est une substance divine. Voilà, c'est une substance divine qui peut se salir par son lien avec l'âme. C'est pourquoi Hébreux 4:16, pour essayer de concrétiser ce que nous disons par un verset biblique encore, et puis on tournera la page, parce que ce n'est pas le thème de cette étude. Hébreux 4:12.
Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit.
Voilà. Donc, la parole de Dieu peut partager l'âme et l'esprit. Ainsi, l'esprit peut respirer et vivre sa divinité, sa pureté. Donc, quand tu écoutes la parole, elle donne comme une forme de goût à l'esprit qui se détache de l'âme. Se détachant ainsi de l'âme, il permet une connexion totale avec l'Esprit de Dieu qui te donne maintenant une victoire sur l'âme dans l'ensemble de ton être. C'est cela, donc d'où l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu permet de séparer le flou parfois qu'il y a entre la volonté de Dieu, la logique de Dieu, la vérité de Dieu et nos propres pensées, nos propres logiques humaines. Parfois, elles s'entremêlent, ces deux logiques-là. Et quand tu écoutes la parole, tu sais quand même, non. Vous savez, par exemple, autrefois, je croyais que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je croyais que c'était un verset biblique, vous voyez. Donc, on se dit, mais c'est logique quand même de commencer par soi-même. Mais non, ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas écrit. Maintenant, quand tu écoutes la parole, tu lis la parole, finalement, tu te rends compte que, mais non, ce n'est pas écrit. Ce qui est écrit plutôt, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, vous voyez, donc la parole de Dieu, maintenant, réveille ton esprit qui était comme endormi dans les pensées de l'âme. C'est ça qui se dit, que ça sépare l'âme de l'esprit, afin que l'esprit vive dans la pureté. Et comme ça, on va changer le sujet, mais dans Galates 5, 16, c'est écrit que c'est fait ainsi afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. C'est-à-dire que il y a une lutte entre l'âme et l'esprit dans notre corps. Donc, surtout quand les deux sont séparés, il y a un vrai combat où l'âme veut convaincre l'esprit et l'esprit aussi veut convaincre l'âme. Donc, comment gagner? C'est toujours être connecté à Dieu lui-même. le plus grand esprit, celui qui donne la force. Voilà, nous revenons sur le fait que, finalement, verset 10, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » Donc, il conclut que même la jeunesse est une vanité. Autant la mettre au service de Dieu. Vous savez, quand quelque chose ne vaut pas grand-chose, autant mettre ça dans les mains de quelqu'un qui va fructifier ça. Voilà, qui sait comment faire pour fructifier ça, puisque ça ne vaut pas grand-chose. Donc, prenons notre jeunesse, prenons notre vie, prenons nos capacités, mettons ça au service de Dieu. Lui, il saura comment fructifier cela. Conclusion, nous lisons la conclusion, verset 11. À partir du verset 11.
Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul maître.
Amen, amen. Il dit, mais les paroles des sages, c'est comme des aiguillons. Et ça réveille, ça fait un peu mal aussi, puisque ça montre nos erreurs. Mais maintenant, quand c'est en plus dans un livre, là, c'est scellé, c'est comme un clou. Voilà, nous avons, avec la Bible, nous avons une force terrible. Vous savez, pour qu'on ait la Bible, il y a des chrétiens qui ont été brûlés. Il y a des chrétiens qui ont été tués. Satan a tout fait depuis des siècles pour que nous n'ayons pas la Bible. Depuis des siècles. Vous savez, on peut tout vous dire, on peut tout te dire, mais quand tu as un verset qui te soutient, quand tu as un passage qui te soutient, tu es bien. C'est ça. Et là, il dit, c'est des paroles de vérité, c'est comme des clous. Alors, bien aimé, nous devons serrer cette parole dans nos cœurs. Serrer la Bible, c'est comme des clous plantés. Oui?
Question Internet. Lorsqu'une personne âgée se convertit, son âge est-il un frein pour une action puissante du Saint-Esprit à travers lui ou non. Le Saint-Esprit va travailler différemment que s'il s'agissait d'un jeune?
Non, son âge n'est aucunement un obstacle. Au contraire, même la pensée du jour de demain, c'est Dieu fera avec ta faiblesse. Voilà. Donc, c'est que Dieu, il se moque de la faiblesse de l'être humain, puisque lui, il est tout-puissant. Il peut t'utiliser dans ta vieillesse glorieusement et dans la promesse de la. Du fait que. Le Saint-Esprit va être répandu, ben, dans cette promesse-là, il y a une parole pour les vieillards. Il dit, vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Ils vont débloquer les choses par les songes. Dieu peut les utiliser de plusieurs manières, en donnant des conseils aussi aux jeunes, en bénissant les jeunes, parce qu'ils ont une autorité divine, naturelle, de bénédiction. Si tu veux être heureux, sois béni par les personnes âgées. Voilà. Moi, je me réjouis toujours lorsque les gens de 75 ans, 80 ans, 90 ans m'envoient un texto ou m'appellent pour dire que Dieu te bénisse et te fortifie. Ah, je me sens heureux. Voilà. Donc je me dis, voilà, je reçois le mandat de Dieu comme il faut. Voilà, c'est cela. Ils ont cette autorité-là. Lisez la Bible, vous allez voir que ben, tous ces gens-là, avant de mourir, ben, Dieu les a utilisés pour bénir, pour déclarer des choses et qui se sont accomplies dans toute la vie des gens qui ont reçu ces choses.
Quand nous recevons l'Esprit Saint suite à une vraie conversion, est-ce que cette dose d'esprit qu'a tout homme de base est augmentée ou bien en réalité c'est juste une séparation nette de l'esprit et de l'âme dans un individu qui nécessite ensuite d'être nourri par la parole, la prière, etc. pour que cette séparation demeure?
Je n'ai pas compris bien la question. Voilà. Oui.
Quand nous recevons l'Esprit Saint suite à une vraie conversion, est-ce que cette dose d'esprit qu'a tout homme de base est augmentée?
Ah, non, c'est là que cette phrase-là m'intrigue un peu. Cette dose d'esprit qu'a tout homme. Non, tout homme n'a pas l'Esprit de Dieu.
Tout homme n'a pas l'Esprit de Dieu. Ou bien, en réalité, c'est juste une séparation nette de l'esprit et de l'âme.
Non. Tout homme n'a pas. Justement, c'est ça la différence. C'est-à-dire que les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu, alors que les hommes humains normaux n'ont que l'enveloppe. Et cette enveloppe-là, elle est inerte. Elle ne bouge pas, puisqu'il faut, pour qu'elle bouge, qu'elle soit réveillée par l'Esprit de Dieu. Voilà. Leur esprit est mort. C'est-à-dire la prophétie de Dieu en disant « Quand tu pécheras, tu mourras », c'est accompli par la mort de l'Esprit de l'homme. Voilà. Leur esprit est mort. Nous avons notre esprit régénéré. C'est ça la différence. Et maintenant, il est vrai que même si notre esprit est régénéré, il est nécessaire de prier, de lire la parole, de pratiquer acte 2.42 pour vivre toujours dans cette force-là du renouvellement de l'esprit. Voilà. Oui. On entend le micro.
Ajouter à ce que tu dis. Dans Romains 8, 16, ça dit « L'Esprit, avec un gros E, lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, parce qu'il y a des gens, des fois, ils ne comprennent pas. Il y a vraiment deux, là. Il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui vient habiter.
Dans notre esprit. Voilà, c'est ça. OK. Oui, question encore?
Pasteur, il est question aussi dans le Nouveau Testament de l'homme animal. Alors, l'homme animal, est-ce que ce n'est pas cet homme qui est pris, enfin, qui n'a pas l'Esprit de Dieu? Comment définir?
Oui, c'est ça. Qui n'a pas l'Esprit de Dieu? En grec, animal, quand on dit là, l'homme animal, il y a le mot psouké dedans. Donc, c'est-à-dire l'âme, l'homme de l'âme, quoi. On pourrait dire, au lieu de dire l'homme animal, on pourrait dire l'homme de l'âme. Voilà, on pourrait dire l'homme de l'âme. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est ça la différence entre l'homme spirituel, d'ailleurs c'est le mot spirituel, qui a l'esprit, cette fois-ci, de Dieu. C'est ça la différence. Voilà. Donc, du coup, l'homme animal est livré à son âme comme un animal qui n'a que l'âme. Voilà. C'est ça, quoi. Nous continuons. Verset 14.
Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps.
Voilà, on ne va pas étudier la Bible. Ce qu'il faut, c'est tirer instruction du peu que tu as reçu. Tirer instruction, ça veut dire quoi? Prendre au sérieux et mettre en pratique. C'est ça, tirer instruction. Quand on dit à quelqu'un, tire instruction de ce qu'on t'a dit, ça veut dire utilise ça maintenant. Donc tu as reçu, tu as compris quelque chose. Maintenant, applique. Beaucoup n'appliquent pas le peu qu'ils connaissent, mais ils rajoutent connaissance sur connaissance. Le nombre d'anges, ils veulent connaître le nombre d'anges, le sexe des anges. Mais non, ce qu'on t'a déjà donné, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Applique déjà ça. Il y en a qui veulent connaître le nombre de leur ministère. Ceci, cela, mais non. C'est l'instruction que tu viens de recevoir, mets ça en pratique. Et c'est comme ça que tu auras la vie. Beaucoup d'études, ça finit par fatiguer le corps et les gens commencent à, comme dans beaucoup d'écoles théologiques, les gens étaient entrés chrétiens, ils sortent païens. Voilà, non, c'est ça. Leur corps est fatigué. Versets 15 à 16.
Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Soit mal, soit bien, soit mal, tout sera dévoilé un jour. Alors tout le reste est vanité. Qu'est-ce qui est important? C'est de s'abandonner entre les mains de Dieu. De craindre Dieu et de le suivre. Parce que c'est lui la source éternelle. qui ne tarit jamais, qui ne bouge pas. Il est immuable, il est toujours comme ça. Et quand on se branche à lui, on entre dans cette éternité-là. Tout le reste passera très, très vite en plus, très, très vite. C'est ça la conclusion, verset 10, vanité de vanité. Donc, et maintenant, le peu là, malgré le fait que tout est vanité, mais le peu où tu t'es senti fort, hein, pour défier Dieu, vivre ta vie comme tu veux, ben on te jugera pour ce peu-là. Voilà. Mais puisqu'on te dit dans tous les cas, tu n'es rien du tout. Mais le peu-là, le petit-là, qui t'a fait tomber dans l'orgueil, qui t'a fait croire que tu étais quelqu'un, eh ben, à cause de cela, ben, tu seras jugé. Parce que tu n'as pas reconnu que tu étais rien du tout. Prions vraiment que Dieu nous aide à reconnaître qu'on n'est rien du tout. On est petit, tout est vanité, et à nous soumettre à lui. Et mettons l'instruction en pratique. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides, Seigneur, à mettre en pratique toute cette instruction que nous venons de recevoir de l'Ecclésiaste, ton serviteur. Nous voulons vraiment considérer combien nous sommes petits et que nous sommes de passage. Seigneur, toi, tu étais grand. Toi, Jésus, tu étais grand, irréprochable, fils de Dieu. Mais il est écrit que tu t'es humilié, alors que toi, tu avais le droit de ne pas t'humilier puisque tu étais en réalité grand, vraiment. Alors, comment nous ferons autre chose, Seigneur? Pardonne-nous à chaque fois qu'on s'est cru quelqu'un. Pardonne-nous à chaque fois que nous nous sommes crus supérieurs à quelqu'un d'autre. Pardonne-nous, Seigneur, parce que du moment que nous tous nous sommes rien, donc il n'y a pas de supérieur, Seigneur. Aide-nous à comprendre ces choses et à nous confier en toi et à nous reposer sur toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Faire comme toi, Seigneur. Alors que toi, tu avais de la valeur, tu t'es mis sans valeur, Seigneur. Mais nous n'en avons pas, Seigneur, mais nous voulons nous valoriser. Pardonne-nous et aide-nous à nous brancher à toi, à la vraie valeur. À considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes et à nous laisser porter par toi dans tout. Merci pour ces enseignements, Seigneur. Ils sont tellement magnifiques. Ta parole est merveilleuse. Oh Seigneur, à toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse.